Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Roger Caillois voyait dans la nature une source infinie d'inspiration poétique. Nous vivons dans un univers d'échos et de reflets, dit-il dans cette émission, au micro de Janine Worms. Et ces répétitions sont, selon lui, à l'origine de l'émotion poétique. Cette émission est la 11e partie d'un entretien en 12 volets. Première diffusion sur France Culture le 3 juillet 1970.
Roger Caillois, nous avons parlé du fantastique dans la littérature et dans l'art. Et vous nous avez montré que le fantastique était une rupture dans l'ordre naturel. Or, vous parlez aussi du fantastique naturel. N'est-ce pas une contradiction dans les termes ?
Mais c'est une contradiction. Et j'ai été très malheureux de devoir employer cette expression, puisque si le fantastique tel que je le conçois est en effet une déchirure dans l'ordre naturel, c'est-à-dire l'intervention de quelque chose qui justement est mystérieux, énigmatique et inquiétant parce qu'il est surnaturel, comment peut-on parler d'un fantastique naturel ? Mais ce n'est pas moi qui parle d'un fantastique naturel. J'ai rencontré le mot à chaque instant. On parle d'un paysage fantastique, d'une forme fantastique, de rochers fantastiques, d'un nuage fantastique, etc. Par conséquent, il semble bien que dans la sensibilité générale, le fantastique et nature ne soient pas opposés. Et j'ai été amené à parler de fantastique naturel d'abord à propos du fulgore porte-lanterne, c'est-à-dire, nous en avons parlé au moment du mimétisme, c'est-à-dire d'un animal qui transforme, qui transporte plutôt en avant de sa tête un énorme ballon creux qui ressemble à une tête de crocodile. Cette tête de crocodile sur un insecte, sur une sorte de cigale, est fantastique. J'ai été amené à en parler de nouveau quand j'ai reproduit au début de mon livre Au cœur du fantastique une taupe d'Amérique du Nord qui promène sur son visage une espèce de corolle de chair rose composée de 22 tentacules de chair rétractile qu'elle peut à la fois tendre et faire devenir turgescente ou au contraire rendre flasque, n'est-ce pas ? Eh bien, ces deux animaux donnent une impression absolument de quelque chose qui viole l'ordre naturel. Et elle le viole d'une façon différente, d'ailleurs. Ce qui inquiète chez le fulgore porte-lanterne, c'est de voir une cigale qui arbore une tête d'alligator. Par conséquent, c'est le rapprochement entre deux réalités extrêmement éloignées, comme dans l'image poétique, d'ailleurs. Tandis que dans le cas de la taupe américaine, ce qui a d'effrayant, c'est qu'elle ressemble à rien. On pourrait, à la rigueur, penser qu'elle ressemble à une énorme anémone de mer. Mais ça n'est pas très frappant. C'est plutôt le côté absolument déconcertant qui semble insolite. Plus tard, j'ai retrouvé cela dans simplement dans l'hippocampe. L'hippocampe, on l'appelle un cheval de mer. Mais il ne ressemble pas à un cheval, n'est-ce pas ? C'est ça qui m'a frappé. S'il ressemblait à un cheval, il aurait quatre pattes et il marcherait. Alors que nous avons affaire à un petit poisson qui a une queue en spirale et qui nage par des espèces de soubresauts obliques. Et alors, ce qui est confondant, disons, dans le cas de l'hippocampe, c'est qu'on a eu tout à fait raison de lui donner un nom de cheval et de le comparer à un cheval. Mais il ne ressemble pas à un cheval réel. Il ressemble à un cheval de jeu d'échecs, un cheval qui n'a que le buste et la tête du cheval. Et non seulement ça, mais qui se déplace obliquement et par saut, absolument comme le cheval du jeu d'échecs. Alors là, il y a vraiment une ressemblance qu'on peut dire fantastique, parce qu'il ne s'agit pas d'une similitude entre deux espèces différentes de règne, d'ordre différent du même règne, qui est ici le règne animal. Il s'agit là d'une œuvre de la nature, l'hippocampe, et d'une pièce fabriquée par l'industrie humaine. Et j'ai été encore plus frappé en voyant dans un livre d'un photographe américain qui s'appelle Feininger, une araignée. L'araignée est Cyclocosmia de la Floride, et qui a un dos parfaitement plat et circulaire, qui représente une face humaine, exactement d'ailleurs la face comparable aux dieux précolombiens qu'on peut voir soit dans le Yucatan, soit à Tiwanaku, à la frontière entre la Bolivie et le Pérou. Et là encore, il y a rencontre, il y a coïncidence. D'un côté, entre une sculpture humaine, c'est-à-dire entre une chose voulue, calculée, qui correspond à un culte et à une liturgie, et à un dessin de hasard produit par la chitine d'un arachnide, n'est-ce pas ? Eh bien, on ne peut pas dire que ça soit une ressemblance voulue, en aucun cas.
Donc, pour vous, Roger Caillois, le fantastique naturel aurait deux aspects. D'une part, une rencontre étonnante, inattendue, entre une forme inventée par les hommes, par exemple, et une forme naturelle, c'est-à-dire la forme naturelle semblant imitée antérieurement.
Et comme non, il n'y a pas d'imitation.
Semblant
imité. Il y a simplement, disons, une ressemblance. Disons une ressemblance ou une rencontre. Et cette rencontre est déjà extraordinaire quand elle a lieu entre deux êtres qui appartiennent à un même règne, par exemple au règne des êtres vivants. Mais elle est beaucoup plus surprenante quand elle se traduit entre une œuvre d'art, comme la sculpture précolombienne dont je parlais tout à l'heure, et une araignée. Ou pour reprendre un autre exemple, entre le dessin qui se trouve sur la carapace d'une tortue du Pacifique qui s'appelle Carreta Carreta Gigas et qui reproduit absolument l'aigle bicéphale, tranquille avec de très larges pennes, qu'on retrouve comme pictogramme sur les Indiens de la prairie. Et là, il ne peut pas y avoir de rencontre, ni même pas d'imitation, parce qu'il s'agit d'une tortue marine du Pacifique, et qui est assez rare, et que certainement les Indiens de la prairie, qui sont éloignés de l'océan de centaines, sinon de milliers de kilomètres, n'ont jamais pu voir. Par conséquent, il y a des dessins qui se retrouvent dans la nature. Et c'est le fait que ces dessins se retrouvent qui fait qu'il y a fantastique et qu'on peut parler de fantastique naturel. Ce ne sont pas les éléments eux-mêmes qui sont fantastiques, c'est que l'esprit est conduit à reconnaître leur ressemblance et à leur trouver quelque chose de commun.
C'est donc la rencontre des formes qui est fantastique. Mais vous avez là-dessus, je crois, une théorie très précise, et qui est que le nombre des formes est limité.
Je crois que le monde des formes est limité. Ça m'a frappé quand j'ai lu Platon, d'ailleurs, quand il explique qu'il n'y a que 5 polyèdres parfaits, c'est-à-dire qui ont tous leurs angles égaux et tous leurs côtés égaux. Il n'y en a que 5 et ça m'a surpris beaucoup. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Mais en effet, la démonstration est très simple. Un élève de l'enseignement secondaire la comprendrait en 5 minutes. Je ne veux pas la faire ici parce qu'il me faudrait un crayon et un morceau de papier, bien entendu. Mais n'importe qui a des notions même très élémentaires de géométrie peut la faire. Il n'y a que 5 polyèdres parfaits. Or, ces 5 polyèdres se retrouvent dans les radiolaires, c'est-à-dire dans des minuscules animaux marins de grande profondeur que Platon ne pouvait certainement pas connaître. Plus tard, quand j'ai appris la découverte de Mendeleïev, c'est-à-dire la table cyclique des éléments, et qui fait que cette table donne le nombre des éléments, non seulement des éléments connus, mais même des éléments inconnus. Beaucoup d'éléments, beaucoup de cases de Mendeleïev étaient restées vides, et Mendeleïev a décrit les propriétés, le nombre atomique des corps qui viendraient un jour les occuper, et qui sont venus en effet les occuper. C'est-à-dire, c'était non seulement les corps, les éléments connus qu'il a pu ainsi classifier, mais même des corps qui n'existaient pas sur la Terre, qu'on a ensuite découvert sur les astres grâce à la spectroscopie, ou bien des corps qui ne peuvent exister qu'un milliardième de seconde dans un laboratoire à une extraordinaire température, provoquée artificiellement. C'est-à-dire que tous les corps, non seulement réels, mais possibles, mais concevables, figurent dans la table de Mendeleïev et que les cas de cette table sont extrêmement peu nombreux. De là, je me suis dit, par exemple, nous parlions ces jours-ci du fantastique, que le nombre des contes fantastiques ou le nombre des contes de fées était limité, qu'ils étaient bien entendu innombrables dans leur intrigue, mais qu'ils étaient toujours et qu'ils répondaient toujours à un certain nombre de types qui étaient fixes et que l'on pouvait dénombrer, pour ainsi dire, abstraitement et déductivement.
C'est-à-dire que les thèmes sont peu nombreux et les variations innombrables.
Les variations sont infinies, comme pour les corps, par exemple. Vous rencontrez toutes sortes de pierres, toutes sortes de minéraux. En réalité, les espèces minérales sont très peu nombreuses. Elles n'atteignent pas 2000. Et c'est ce qui me fait penser que le nombre des formes est également fini On peut varier les formes. On ne peut pas d'ailleurs les varier extraordinairement. Maintenant, par exemple, il y a des méthodes archéologiques, des répertoires archéologiques qui ne sont plus des simples énumérations des haches en bronze, par exemple, qu'on a trouvées, mais qui reproduisent sur cartes perforées les différentes courbures que peuvent avoir ces haches ou ces vases, de sorte que n'importe quelle trouvaille de hache en bronze ou de vase en terre cuite, par exemple, que l'on trouve, rentre immédiatement dans une forme qui avait été prévue par les cartes perforées, et elle prend la place qu'il attendait, pour ainsi dire. Ce qui me fait penser que ce qui produit l'impression de fantastique dans la nature, ça n'est pas l'imitation, ça n'est pas le mimétisme d'un animal pour se protéger, ça n'est pas parce que un sculpteur aztèque aurait copié la face dorsale d'une araignée, non, c'est parce qu'il ne pouvait pas, les formes étaient forcées de se répéter. Si le fulgor ressemble à un crocodile, c'est parce qu'il veut être horrible, il a un avantage à être horrible, mais il n'est pas horrible parce qu'il reproduit un crocodile, il est horrible parce que le nombre des formes horribles qui peuvent être horribles et limitées. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, il y a un fantastique naturel, il y a un fantastique qui vient de la répétition des mêmes éléments qui surgissent à différents niveaux de la nature ou de l'imagination, car c'est l'homme qui est d'ailleurs lui-même un être naturel qui peut les produire ou les reproduire et qui fait que les formes se recoupent. Ou se chevauche, ou je dirais plutôt se répète, c'est-à-dire qu'une forme, on annonce une autre, ou on rappelle une autre, il y a un univers de formes que Baudelaire avait pressenti, par exemple, quand il dit la nature est un temple ou de vivants piliers, où les couleurs, les parfums et les sons se répondent, eh bien ce n'est pas seulement dans le monde naturel, dans le monde perceptible, c'est tout à fait général, nous vivons dans une espèce d'univers où il y a beaucoup de carrefours, beaucoup de croisements, beaucoup de miroirs. Nous vivons dans un univers à la fois d'écho et de reflets. Et c'est ce qui m'a finalement conduit à parler de fantastique naturel.
Alors vous croyez que cette impression de fantastique provient du fait que la rencontre de deux éléments aussi éloignés l'un de l'autre, que ce petit fulgor, enfin cette cigale et ce masque de crocodile qu'il porte, et qui nous laisse pressentir obscurément, justement, ce nombre de ces formes.
Je crois qu'il ne nous laisse rien pressentir du tout. Je pense qu'il est un signe qu'il y a à tout instant des répétitions dans la nature, que le même élément revient, un peu comme des bornes kilométriques, mais naturellement sans aucune régularité. N'est-ce pas? Du fait que le nombre des éléments sont limités, il faut forcément que de temps en temps, il y en a un qui se répète. Et cela produit, je crois, une émotion tout à fait particulière, tout à fait spécifique chez l'homme. Et même, à mon avis, c'est ce qui explique la poésie. Il me semble que l'image poétique ne serait pas possible s'il n'y avait pas cette répétition souterraine d'éléments que la tâche du poète est précisément de mettre au jour.
Eh bien, c'est ce que nous verrons, Roger Caillois, demain, si vous le voulez bien.
C'était Roger Caillois au micro de Janine Worms, 11e volet d'un entretien en 12 parties, première diffusion de cette émission le 3 juillet 1970. À suivre.